Mais bonjour tout le monde, ça va bien? Ça commence à refroidir un peu. Ça a l'air qu'on va voir un hiver super froid. Moi j'aime l'hiver, moi j'aime l'hiver. Bienvenue à l'Église de l'Espoir, on est content de vous retrouver. On poursuit notre série dans 1 Corinthiens. La lettre d'un Corinthien est une superbe lettre dans la Bible. Elle nous brasse, elle nous remet en question. Elle parle d'éthique, de style de vie, on va en parler particulièrement ce matin. Mais la lettre aux Corinthiens nous invite à quitter nos royaumes personnels. On est tous des petits rois, des petites reines dans notre royaume. On juge les choses, on évalue les choses, on les établit comme on juge qu'elles sont bonnes. Et Dieu nous appelle à quitter notre petit royaume pour aller dans le royaume de Dieu. Ça, c'est l'appel que Dieu place sur nos vies. Et tant que tu restes dans ton royaume, tu es comme dans une espèce de chambre d'écho. Vous savez, c'est quoi une chambre d'écho, un echo chamber? Où tu dis des choses, puis tu trouves toutes sortes de personnes qui vont juste comme t'approuver, qui disent « Ah oui, oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. » Je vais vous donner un exemple très, très fort cette semaine. Cette semaine, c'était quoi qu'il y avait de meilleur sur Netflix? Les élections américaines, évidemment. C'était la série, c'est la série de l'année, évidemment. Et puis, les partis qui soient d'un côté ou de l'autre sont souvent dans des echo chambers, dans des chambres d'écho. Et lorsqu'ils perdent, ben là, ils ne comprennent plus, là, ils n'arrivent pas à expliquer ce qui est en train de se passer. On a vu Trump en 2020, quand il ne comprenait pas ce qui s'était passé, de quoi ça avait l'air, n'est-ce pas? Cette année, c'est un peu différent, ça ne vient pas nécessairement des dirigeants. Quoi qu'encore, j'écoutais Tim Walz, le co-listier de Kamala Harris, qui disait quelque chose d'assez triste. Il a dit « c'est dur à avaler, c'est une défaite qui fait très mal, je ne comprends pas que les gens dont on a tellement pris soin aient voté pour l'autre camp. » Et donc, il commence à s'en prendre aux électeurs. Et c'est très, très fort. Là. J'ai entendu des choses assez incroyables du genre, c'est de la faute des femmes blanches rurales non instruites. Bouh! Je ne veux pas pointer du doigt, là, comme je vous dis, Trump n'a pas beaucoup de morale à faire. C'est pas ça mon point. Mon point, c'est que on vit dans des chambres d'écho. On va trouver des gens qui vont confirmer tous nos biais, qui vont nous donner raison. Et lorsque tu décides de suivre Jésus-Christ, ben tu décides de quitter ta chambre d'écho, ton echo chamber, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et là, tu acceptes que Dieu vienne te confronter dans tout ce que tu crois. Dieu va venir recalibrer ton sens de la justice. Et c'est de ça dont on va parler ensemble ce matin. Vous allez voir, la parole de Dieu est très puissante, très bouleversante et très, très belle. On va prier ensemble puis on va écouter la lecture de la parole. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence. Premièrement, en confessant, Seigneur, que ça nous plairait tellement si tu voulais bien seulement confirmer tous nos biais. Nous dire qu'on a raison, nous dire qu'on a raison sur tout ce qu'on voit, nous dire spécialement qu'on a raison lorsqu'on subit des injustices. J'aimerais, Seigneur, que tu sois mon avocat, non seulement pour mes péchés, mais aussi pour tout le mal qu'on me fait, Seigneur. Mais ce n'est pas dans cette attitude-là qu'on veut venir ce matin. Ce matin, Seigneur, comme chrétien, nous voulons reconnaître que nous appartenons maintenant à ton royaume, au royaume d'un être qui est infiniment plus juste, plus saint, moralement droit. Et Dieu merci, Seigneur, infiniment gracieux. Et on te prie, Seigneur, de venir nous parler, de venir nous remettre en question ce matin. Qu'avec l'exhortation, l'enseignement de l'apôtre Paul, nous prenions la décision, Seigneur, de suivre Jésus-Christ le juste, pour marcher selon le royaume de Dieu. Seigneur, je te prie d'être avec nous dans toute ta puissance, par ton Esprit Saint, afin que ton message vienne s'appliquer à chacune de nos vies. Soit avec ma bouche, Seigneur, soit avec mes paroles, que chaque parole qui sort de cette bouche puisse être édifiante. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
Alors, la lecture de ce matin est dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, versets 8 à 11, dans la nouvelle édition de Genève. 1 Corinthiens 6, versets 8 à 11. « Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. » Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
Amen. Merci, Jérémie. Tout le contexte de ce passage-là se comprend beaucoup mieux lorsqu'on écoute les deux messages précédents. Donc, je vais vous encourager à aller les écouter si ce n'est pas déjà fait. Mais on est dans un contexte où Paul a parlé de discipline ecclésiastique. Je me répète un peu, je l'ai mentionné ce matin, il y a vraiment tout un contexte. Après avoir parlé de l'importance d'avoir le courage d'aller vers un frère, une sœur pour dire « Écoute, tu m'inquiètes, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il me semble que tu es en train de t'égarer loin de la parole de Dieu. » Bien, après avoir parlé de ça, l'apôtre Paul va parler comment les chrétiens résolvent des conflits. Comment est-ce qu'on résout nos conflits lorsqu'on a des conflits entre nous? Et on a commencé à aborder ce sujet-là la semaine dernière, mais il se termine en fait dans la suite du passage. Maintenant, comme c'est gros, j'ai décidé de le couper en deux, mais vraiment, on est dans la suite. L'apôtre Paul va dire, bien, si tu décides de réclamer ta justice à tout prix, tu te comportes comme tous les injustes qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est ça son argument qu'il va développer ici. Quand tu deviens chrétien, ta vision de la justice, de ta justice et de l'injustice est radicalement bouleversée parce que tu penses de ton petit royaume au royaume de Dieu infini, merveilleux. Et ça entraîne une transformation profonde de notre compréhension de la justice et de notre identité. On n'est plus défini selon notre ancien style de vie, mais par une nouvelle identité qui est en Jésus-Christ, qui nous a été donnée par la puissance de l'Esprit-Saint, et on apprend à fonctionner en suivant Jésus-Christ le juste. Avant, j'avais l'impression d'être juste dans mon royaume. C'est moi qui déterminais le bien, le mal, mon style de vie. Et lorsque je découvre l'Évangile de Jésus-Christ, j'entre dans le royaume de Dieu, puis je dis, mais j'étais finalement un injuste par mon style de vie, par mes choix moraux. Et j'apprends maintenant à marcher à la suite de Jésus-Christ le juste. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. L'Évangile de Jésus-Christ nous conduit hors de notre petit royaume pour marcher selon le royaume de Dieu. Donc, on va voir trois appels du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu nous appelle premièrement à accepter l'injustice. Vous allez voir, ça va chevaucher un peu avec le message de la semaine dernière, mais on veut bien comprendre l'argument de Paul. C'est très, très puissant. C'est vraiment troublant, mais c'est beau comme c'est troublant. Dans 1 Corinthiens 6, 7 et 8, je vais vous lire dans la Bible du Sommeur, j'aime bien comment c'est rendu. Tout à l'heure, on a lu dans l'édition Genève. « De toute façon, vos différends, vos conflits constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt l'injustice? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous laisser dépouiller? Mais non! » C'est au contraire vous qui commettez des injustices et dépouillez les autres, et ce sont vos frères que vous traitez ainsi. Paul est en train de nous dire, à réclamer la justice, à trop réclamer la justice, on finit par s'éloigner de la grâce. On finit par se perdre loin de la grâce. Verset 8, il dit, « Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez ainsi. » Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit dans Proverbes chapitre 16, verset 25, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Quand tu rencontres Jésus-Christ, quand tu découvres l'Évangile de Jésus-Christ, une des premières choses que tu apprends à faire, c'est douter de ton jugement. Être disposé, être prêt à remettre en question ton jugement. Parce que lorsque tu réalises, tu découvres l'Évangile de Jésus-Christ, tu réalises que finalement, tu étais un injuste, tu étais un pécheur. Par ton style de vie. Mais souvent, tu te trouvais juste, tu trouvais que ça allait bien. Puis là, tu es amené ailleurs, une autre perspective complète. Puis tu peux te permettre d'explorer une autre perspective parce que tu découvres la grâce, tu découvres le pardon. C'est pas dangereux de me regarder pour de vrai dans le miroir, qui est la parole de Dieu, puis de découvrir que je suis pas à la hauteur des standards de Dieu parce que Dieu me fait grâce, Dieu me pardonne, Dieu m'aime. Ce n'est plus remis en question. La grâce est là, le pardon de Dieu est disponible. Je peux oser sortir de ma chambre d'écho, m'exposer à la parole de Dieu puis dire, suis-je juste ou non? C'est ça qu'on découvre lorsqu'on vient à rencontrer Jésus-Christ. Et on apprend, comme dit le proverbe, telle voie paraît droite à un homme. Finalement, je me disais dans la vérité, je pensais être dans la vérité, mais peut-être que j'errais, peut-être que j'étais à côté de la plaque. Quand tu saisis que Jésus-Christ le juste est venu mourir pour des injustes, toi et moi, quand tu saisis vraiment ça, il y a un renversement qui se produit en toi. Ça dispose ton cœur à remettre en question ta propre justice, tes propres jugements, ton propre discernement. Jésus le juste nous a montré la voie de la justice. C'est lui qui est juste. On est tous des injustes. Et il nous a montré la voie de la justice en prenant le châtiment des injustes sur lui-même. Dans 1 Jean 2:1, on lit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Il y en a un seul qui est juste. Il y a un seul être humain qui a marché toujours dans la justice, c'est Jésus, c'est le seul. Et il a décidé d'aller mourir sur la croix pour nos péchés. Voyez-vous, tout le passage de 1 Corinthiens 6, 1 à 11 au complet, c'est l'histoire d'un type qui, étant chrétien, a subi ce qu'il estime être une injustice de la part d'un frère, d'une sœur, et qui décide que lui, son jugement, son discernement, sa perspective sur la situation est absolument vraie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va chercher un avocat pour aller en cour. Parce que vous savez, lorsqu'on va en cour, ton avocat n'est pas là pour discerner ce qui est vrai. C'est pas sa mission. Sa mission, c'est de défendre ton point de vue. C'est la job du juge de déterminer ce qui est vrai. Et donc, c'est l'histoire d'un gars qui se dit chrétien, qui s'en va chercher un avocat parce qu'il sait qu'il a raison. Il n'est pas question qu'on remette ça en question. J'ai juste besoin de trouver des autorités qui vont me donner, qui vont me rendre la justice selon mon jugement. Donc, il s'en va se prendre un avocat parce que l'avocat est là pour défendre son point de vue, il n'est pas là pour chercher la justice. Et évidemment, son adversaire va prendre son avocat qui est là pour défendre son point de vue, pas pour chercher la justice. Et on espère que le juge va être juste dans tout ça. Et si ça ne va pas, bien, on ira chercher un autre juge. Peut-être qu'on peut faire appel plus haut. Mais lorsque tu découvres l'Évangile de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui se passe en toi. Tu dis, attends, la justice ne se trouve pas en moi. Elle se trouve en Dieu. Moi, je ne suis pas juste. Je suis un injuste. C'est ça, devenir chrétien. C'est que tu reconnais que, à tout le moins, selon les standards de Dieu, tu es injuste. Je suis injuste. C'est ça, devenir chrétien. Alors, Paul est en train de dire l'approche que tu devrais prendre au lieu de faire ça, au lieu de risquer de te tromper dans ton jugement et de te comporter maintenant comme un injuste. Va donc voir un frère, une sœur, quelqu'un de mature dans l'Église. Dis à celui avec qui tu as un conflit, regarde, on n'arrive pas à le résoudre ensemble, on va aller voir quelqu'un de sage. Et on va prendre la chance que le jugement ne soit pas selon ce qu'on veut. Je ne ferai pas appel, là. Il n'y a pas de cause supérieure dans l'Église, vous comprenez? Je veux dire, il y en a une, mais c'est lorsqu'on va comparaître devant Christ. C'est un peu long. Et Paul dit, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas ça? Pourquoi est-ce que tu n'irais pas simplement demander à un frère, une sœur mature de se prononcer, puis de vous écouter, puis il n'est pas là pour défendre ton point de vue ou défendre son point de vue. Les points de vue n'ont pas d'importance ici. Ce qu'on cherche, c'est à faire ce qui est bien. Puis si à la fin de tout ça, tu sais, la personne prononce un jugement qui n'est pas à ton goût, bien, c'est peut-être préférable que tu risques de subir l'injustice plutôt que de te comporter injustement. Parce que ça concorderait plus avec l'Évangile. Est-ce que c'est pas ça que l'Évangile nous enseigne? Le juste a accepté de subir l'injustice pour que des injustes soient pardonnés? C'est ça l'Évangile? Vois-tu, quand tu viens à Christ, tu choisis, dans des situations semblables, d'errer du côté de la grâce, au risque d'être dépouillé, parce que ça serait préférable à te comporter comme un injuste toi-même. Ça coûte cher, la vie chrétienne, hein? Bien, Jésus a dit qu'on était appelé à porter notre croix. À porter notre croix. Ce n'est pas une planche de surf, une croix. Tu comprends, ça ne va pas surfer sur une vague en somme? Non, ça servait à se faire crucifier. Ça coûte cher. Ça coûte cher parce que ça a coûté beaucoup plus cher à Jésus. Et parce qu'on entre dans un nouveau royaume, je quitte une chambre d'écho pour marcher dans son royaume à lui. Quand je deviens chrétien, j'entre dans un nouveau royaume, un plus grand et plus beau royaume, magnifique, mais qui m'amène à quitter le royaume de mon jugement personnel unique, ma chambre d'écho. J'apprends à discerner la justice, ce qui est juste, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça qui est mon standard. Et je préfère toujours errer du côté de la grâce au risque de me comporter comme un injuste si je ne faisais pas ça. Et c'est vrai dans toutes nos relations. C'est vrai dans tous nos rapports. Entre chrétiens, premièrement, mais pas seulement entre chrétiens. Jésus dit d'aimer ses ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. Mais n'est-ce pas profondément injuste? Je m'en vais vers celui qui me maudit et je veux le bénir. Pardon? Est-ce que ce n'est pas injuste? Ben, c'est ressemblé à Jésus, je veux dire. Et sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils sont en train de le maudire en face. Ceux qui l'avaient aimé l'ont tous abandonné. Il est seul sur cette croix. Il dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bénir ceux qui nous maudissent. » Lorsque tu viens à la connaissance de Jésus-Christ, tu quittes ton royaume à toi où tu te justifiais avec toutes sortes de raisonnements, puis tu t'entourais de gens qui disaient, tu sais, qui te flattaient toujours dans le sens du poil, puis « Écoute, tu as raison, tu commérais au travail contre ceux qui se comportaient injustement envers toi. » Puis là, tes amis sont là pour te dire, « Ah oui, c'est un chien sale. C'est un dégueulasse. » Tu quittes ça parce que tu sais que toi, tu es un injuste. Et je ne voudrais pas faire du commérage. Peut-être que c'est moi qui est en faute. Je vais errer du côté de la grâce. Le royaume de Dieu nous appelle à accepter l'injustice. Et ça se peut que ce soit ça qui t'empêche de devenir chrétien. Parce que tu dis, non, tu ne comprends pas, Yannick, pour moi, le sens de la justice est tellement fort que je ne pourrais pas accepter ça. Mais comme je l'ai dit la semaine dernière, ça va. Dieu te laisse choisir de vivre selon tes standards sur la terre. Mais si tu réclames la justice toute ta vie et que ça t'empêche de venir à Christ, lorsque tu te présenteras devant Dieu, Dieu te rendra justice. Et là, si tu penses que ta justice est supérieure à la justice des hommes autour de toi, attends de te présenter devant Dieu parce que là, tu es perdant, mon ami. Et tu ne veux pas que Dieu te rende justice. Tu veux que Dieu te rende grâce. Tu veux que Dieu te donne sa grâce. Alors, si c'est ça qui t'empêche, parce que tu subis des injustices dans cette vie, de venir à Jésus-Christ, repens-toi rapidement. Viens te mettre à l'abri de la grâce de Dieu. De peur que Dieu dise, « C'est bon, tu as voulu la justice toute ta vie, voilà la justice, mon ami. T'es damné. T'es damné pour l'éternité. » Ça coûte cher être chrétien, mais c'est tellement payant. Je m'en vais au ciel pour l'éternité. Quelle grâce! Lorsqu'on devient chrétien, Dieu nous invite à entrer dans le royaume de Dieu et son royaume nous appelle à accepter l'injustice. Deuxièmement, deuxième appel, trois appels, deuxième appel du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu nous appelle à renoncer à notre injustice. Accepter l'injustice, renoncer à notre injustice, deuxièmement. Le royaume de Dieu nous appelle à renoncer à notre injustice. Nos anciens styles de vie étaient des offenses à Dieu. Et juste pour que vous compreniez le raisonnement, ce que Paul est en train de faire, il est en train de dire, « OK, t'es chrétien, tu veux aller régler tes conflits en cour, tu veux réclamer ta justice, dans le fond, tu te comportes comme un injuste. Laisse-moi t'en nommer d'autres injustes. » Donc, c'est très fort. Paul est en train de dire, si comme chrétien, la bataille de ta vie, c'est d'obtenir la justice, tu te comportes de manière injuste comme tous les injustes. Je t'en nomme quelques-uns comme ça en passant. Les débauchés, les idolâtres, les adultères, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux, les ravisseurs. Voilà les injustes. Et donc, si tu passes ta vie à réclamer ta justice, tu es dans ce camp-là, mon ami. Et les injustes, sont encore dans le royaume, dans leur royaume. Ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu nous invite à renoncer à notre injustice, à tous ces styles de vie-là, dont celui que la bataille de ta vie, ce soit de réclamer la justice. Un Corinthiens 6, 9 et 10, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Quelques mots rapidement, juste pour expliquer chacun d'entre eux. Et ensuite, on va aller voir le raisonnement de Dieu derrière ça. Les débauchés. Ceux qui ont comme guide dans leur vie de suivre leur pulsion sexuelle. Pour eux, la sexualité est le guide moral de leur vie. Le plaisir sexuel, quel qu'il soit sous toutes ses formes. Les débauchés, les idolâtres. Ceux qui ont cœur et la débauche et l'idolâtrie vont généralement de pair. Ils ont un cœur attaché à toutes sortes de choses, toutes sortes de dieux, toutes sortes de divinités, plus que Dieu. Ailleurs, l'apôtre Paul va dire que l'amour de l'argent est une idolâtrie. Et donc, ils ont d'autres allégeances que l'allégeance à Dieu. Peut-être que ton idole, c'est toi, dans ton royaume. Après tout, on est humaniste, n'est-ce pas? On est dans le règne de l'humain, super brillant, rationnel, intelligent, plus intelligent que Dieu. Vive ma raison! Là, on est rendu un petit peu après ça, on est rendu dans « vive mon émotion, mon ressenti ». Ça, c'est mon guide. Ça, c'est le guide de la vérité. Les idolâtres. Les adultères, ceux qui ne sont pas fidèles à leur alliance. Ils sont mariés, insatisfaits, suivent leur passion, courent à l'extérieur du mariage pour se satisfaire. Les efféminés, ceux qui ne s'identifient pas avec ce qu'ils sont eux-mêmes. Et littéralement, littéralement dans le grec, c'est dans un couple homosexuel celui qui joue le rôle de la femme. En grec, c'est ça. Littéralement. Les homosexuels, je vais y revenir, d'accord? Je sais que je vais vite. Les homosexuels, Dieu est contre ce style de vie-là. Et je vais revenir sur l'idée qu'on lutte tous avec des pulsions. On lutte tous avec des désirs. Certains d'entre vous, vous avez envie de mentir tous les jours parce que vous étiez des menteurs. Certains d'entre vous, vous avez envie de commérer tous les jours parce que vous étiez des outrageux. Vous aimiez entendre des choses mauvaises contre les gens. Certains d'entre vous êtes incapables d'aller vous promener dans un quartier où les gens sont dans l'opulence, dans la richesse, parce que vous convoitez constamment. Hey, il ne faut pas que la loto soit à 50 millions. Vous luttez avec ça. Parce qu'avant, c'est ça, c'était l'amour de l'argent qui vous guidait, c'était votre style de vie. Les voleurs, qui ont cette pulsion de ne pas pouvoir respecter le bien d'autrui. Les cupides qui sont amoureux de l'argent, incapables d'être généreux. La générosité, ça fait pas partie de leur vie. Quand ils donnent, il y a un prix qui vient avec. Ils font un retour sur investissement. Leur générosité est toujours un investissement avec retour. C'est pas de la générosité, ça. Les ivrognes. Certains d'entre vous aviez des dépendances, autre chose que l'alcool, le cannabis, la bouffe. On pourrait aller ailleurs, hein? C'est pas la liste exhaustive des dépendances qu'on a ici, là. Outrageux, je l'ai dit, ravisseur, malhonnête. Certains d'entre vous, vous étiez des gens constamment malhonnêtes. Constamment malhonnêtes. Hey, quand tu tombes sur un professionnel qui est honnête, tu sais comment tu trouves un bon mécano? Excusez-moi les mécaniciens, là. Tu sais comment tu trouves un bon mécano? Tu demandes à quelqu'un, ça fait combien de temps que tu vas faire affaire là-bas? Moi, mon mécano, là, je peux arrêter avec ma voiture. Là, vous allez me demander c'est qui. Je peux arrêter avec ma voiture, puis je dis, « Hey, tu viendrais-tu voir? » J'entends un bruit bizarre. Là, il me dit, « Lève ton wheel, on va checker ça. » Il m'arrange ça. J'ai dit, « Combien je te dois? » »« Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. » Ça fait 20 ans que je vais là. Elle viendrait me voir après. Non, mais elle n'a pas juste un mécano honnête, là. Come on! S'il vous plaît. Maintenant, les chrétiens occidentaux, spécialement les jeunes générations, mais c'est vrai pour nous tous, d'accord? Par exemple, avec l'homosexualité, mais je pourrais donner tous les autres exemples. On voit de plus en plus ça comme une identité. C'est l'identité d'un individu parce qu'il y a ces pulsions-là, il y a ces désirs-là qui sont en lui. Mais nos désirs profonds ne définissent pas qui nous sommes. Pas nécessairement. Dieu merci, parce que j'ai bien des désirs que vous ne voudriez jamais que je mette en œuvre. Aujourd'hui, on voudrait te faire croire que tout Dieu qui s'opposerait à nos désirs profonds serait en fait un Dieu injuste et cruel, parce qu'après tout, il nous a créés ainsi. C'est une mauvaise compréhension de la nature humaine. Tu ne comprends pas le récit biblique, tu ne comprends pas ce qu'on est profondément par nature. Mes désirs ne définissent pas qui je suis, et renoncer à certains désirs n'est pas contre nature. Au contraire, tout désir qui n'est pas selon la justice de Dieu est lui-même contre nature. Vois-tu, on est pécheurs. Nous avons hérité d'Adam la nature pécheresse. Et ce qui vient avec ça, c'est toutes sortes de désirs, de passions, de pulsions. Certaines sont excellentes et nobles. Généralement, même celles-là sont un peu perverties par notre nature pécheresse. Nos intuitions en sont affectées. Combien de fois on a le désir de se venger? Et moi, mes films préférés, là, pendant que j'étais en train d'étudier ça cette semaine, je me disais, je pense que je pourrais plus écouter mes films préférés. Je ne vous les nommerai pas, ils sont trop violents. Ça me fait du bien, ça me détend quand j'ai un héros qui fait justice lui-même. Puis s'il peut faire justice pour 72 personnes en même temps, oh! Là, je me couche, là, ça fait du bien. Mais j'étais là, puis je me disais, non, mais ça tient pas la route, cette affaire-là. C'est beaucoup plus noble qui expose le mensonge. Je peux donner un petit coup de main à la police, là, trouver des preuves, tout ça, mais on va s'en remettre à la justice. Non, je reste comme sur ma faim. C'est comme, tire, sors le gun. Combien de fois nous avons le désir de nous venger? Combien de fois on convoite le bien d'autrui? Combien de fois on désire mentir pour se sortir d'une situation mauvaise? Ce sont des désirs très, très profonds. Certains d'entre nous, on lutte avec ça tous les jours. Et vois-tu, quand je deviens chrétien, je découvre la justice de Dieu. Je découvre que ce Dieu-là nous appelle à être des personnes nouvelles, à embrasser un nouveau style de vie. J'apprends à désirer ce qui est bien et ce qui est bon et ce qui est juste. Et je l'apprends de celui qui m'a créé, de mon Créateur. Celui qui était égoïste et centré sur lui-même apprend la joie de la générosité, du don de soi. Celui qui estimait que son bonheur se trouvait dans la multitude des partenaires sexuels apprend que la sexualité, c'est dans le mariage qu'on va la vivre, parce que c'est l'essence même de la sexualité. C'est le dessein que Dieu avait. J'apprends qu'on n'est pas des animaux, mais que dans cet univers que Dieu a créé, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et tous les désirs que nous avons ne sont pas appelés à être assouvis, parce que souvent, il y a un appel plus noble que celui-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression « compas moral ». Un compas moral à l'intérieur de nous. On fait un petit exercice, très rapidement, un petit jeu, d'accord? Ce n'est pas un piège. Je vous demande de situer dans votre tête, sans... Gardez vos mains pour vous, OK? On ne voudrait pas que vous instruisiez les gens autour de vous. Où se situe le nord actuellement? Trouvez-le dans votre tête, d'accord? On est ici, pas d'appareil électronique, s'il vous plaît. Où se situe le nord? OK, tout le monde en même temps, on va pointer le nord. Ça va? 1, 2, 3. Où se situe le nord? Le nord se situe là. Et plusieurs d'entre vous, vous avez regardé puis vous avez ajusté le nord, tu sais? C'est dans notre nature. C'est dans notre nature, on s'ajuste, hein? On s'ajuste sur l'environnement autour de nous, ça nous guide. Quand j'étais jeune, j'ai été louveteau. Ça, c'était avant les scouts. Puis là, on apprenait à se servir d'une boussole et on apprenait même à situer le nord en tout temps, sans boussole. Que tu sois en ville ou en forêt, tu veux savoir où est le nord, parce que ça t'aide à t'orienter. Puis là, aujourd'hui, on a des technologies extraordinaires. Moi, le premier, je veux dire, j'embarque dans la voiture, je dis pas « Québec, nord, sud, ouest, OK, on s'en va par là-bas. » Non, mais non, come on. Je me laisse guider. Et parfois, ben, quel que soit le service que vous prenez, ben, il y a une autre ville qui a le même nom de rue puis la même adresse. Et j'ai quelques personnes, je suis désolé de m'en prendre à vous, les amis qui venaient d'autres pays, mais j'ai quelques personnes qui, dans les dernières années, se sont rendues à Québec par erreur. C'est loin, Québec, tu sais. Parce qu'ils ont suivi, ben, c'est ça, l'application qu'il y avait dans leur voiture. Notre compas moral fonctionne de la même manière. Notre compas moral fonctionne de la même manière. Quand je suis dans mon royaume, c'est moi qui décide le bien et le mal. Je suis bien avec moi-même. Puis là, j'évolue avec des gens qui sont généralement d'accord avec moi. Fait que le bien et le mal, on le détermine ensemble. Et puis là, j'évolue dans une culture à travers des médias sociaux, un paquet de choses, qui en viennent à redéfinir mon compas moral. Puis là, je développe une sensibilité pour des choses, même comme chrétien. On développe une compassion. Et là même, c'est une chose la compassion, mais là, ta moralité va s'ajuster à la moralité du siècle, parce que tu développes des compassions, de la compassion. Tu ajustes ça. Et là, ton compas moral est déréglé. Littéralement. Et là, je vais vers les Écritures, puis les Écritures me froissent, me choquent, me troublent. Je n'ose plus dire la vérité des Écritures parce que mon compas moral est déréglé. Littéralement. Je ne trouve plus le nord. Mais Dieu connaît la vérité. C'est Dieu qui nous a créés. Et une des choses qui est super importante à distinguer, les Écritures m'enseignent à avoir de la compassion et de l'amour pour les gens qui ont n'importe quel style de vie. Et c'est pas seulement vrai dans le domaine moral. Pour les gens de n'importe quelle ethnicité, de n'importe quelle origine, pour les gens qui viennent de mon milieu démographique ou non, les Écritures m'enseignent à avoir de la compassion et de l'amour pour tout le monde. Mais dans notre culture, parce qu'on est en train de déplacer le compas moral, on enseigne que la compassion et l'approbation vont nécessairement ensemble. Et donc, je dois approuver tous tes désirs, autrement je ne t'aime pas. Mais moi, je veux t'offrir quelque chose. Je veux t'offrir mon amour et mon amitié, même lorsqu'on sera en désaccord. Et ça se peut qu'aujourd'hui, tu rencontres les Écritures, tu rencontres la Bible, tu dis, écoute, c'est scandaleux, ça m'offense, je ne peux pas comprendre ça, j'accepte pas ça. Moi, je ne veux rien savoir de tout ça, je vais aller vers les gens qui vont m'approuver, parce que là, je vais me sentir aimé. Rappelle-toi de nous. Rappelle-toi de l'Église de Christ. Parce que nous, on a une seule certitude sur nous-mêmes. C'est qu'on n'est pas aimable, puis on est injuste par nature. Et moi, je peux t'aimer, puis avoir compassion de toi, sans être d'accord avec toi. Même en ayant tellement compassion de toi, que je n'ai pas vraiment un jugement. Je ne suis pas d'accord. Mais ça ne m'empêche pas de dire, écoute, ça c'est ton domaine de combat, moi j'ai mes domaines de combat. Moi j'ai mes luttes à moi. Mon ancien style de vie, il n'était pas plus juste que le tien. Alors, je t'invite, si tu entends les chrétiens dire des choses comme « ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien », on dit ce que les Écritures nous disent. Ça, ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas, mon ami. Au contraire. Et c'est là, souvent, que l'Église a manqué. Souvent, l'Église, ne sachant pas quoi faire, a rejeté sans manifester tout l'amour, la compassion. Mais plus j'avance dans la vie, plus je réalise que écoute, mon combat à moi, il est terrible, il est irrationnel, il n'y a pas de bon sens, le tien, c'est la même chose. Ça ne m'empêche pas de venir vers la parole de Dieu pour que Dieu ajuste mon compas moral. Et les Écritures disent clairement que ces choses-là sont des péchés, c'est des styles de vie qui sont pécheurs. Et donc, je suis appelé à renoncer à mon royaume pour entrer dans le royaume de Dieu. Renoncer à mon style de vie qui est injuste, pour venir régler mon compas moral sur celui de Dieu. Et je termine avec un dernier point ce matin. Le royaume de Dieu nous appelle à suivre Jésus qui nous a justifiés. Lorsque je quitte mon royaume, je ne suis pas laissé à moi-même, je vais commencer à suivre Jésus-Christ. Parce que lui est le juste qui nous a justifiés. Romains 3. « Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Jésus-Christ veut justifier tous ceux qui viennent à lui, peu importe notre style de vie. Tu es toujours bienvenu ici pour connaître Christ. Que ton passé soit aussi lourd ou ton présent soit aussi lourd que tu peux l'imaginer. Si tu veux connaître Christ, tu es toujours bienvenu ici. Romains 6. Et c'est lorsque vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, je m'excuse, c'est 1 Corinthiens 6, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Paul nous dit, vous étiez des injustes, mais Christ vous a lavés de ça. Pas parce que maintenant vous marchez sans péché, non, en vertu de son sacrifice. Mais il vous a sanctifiés, il vous a mis à part pour un nouveau style de vie. C'est pour ça que dans la Bible, les chrétiens sont appelés des saints, S-A-I-N-T. C'est pas qu'on pêche jamais, là. Les chrétiens ne sont pas appelés des chrétiens dans le Nouveau Testament. C'était les non-chrétiens qui appelaient les chrétiens des chrétiens. Les disciples de Jésus, ah, ça doit être des chrétiens, ils suivent le Christ. Non, les chrétiens se présentent comme des saints. Ceux qui ont été mis à part, sanctifiés pour servir Dieu, pour suivre Dieu. Mais vous avez été justifiés pas parce que vous êtes justes, vous êtes des injustes. Mais Jésus-Christ le juste est mort sur la croix pour vos péchés. Vous avez été déclarés justes. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que, voyez-vous, on apprend à suivre Jésus-Christ le juste. Jour après jour, je vais devant mon Dieu puis je dis, « Seigneur, je te demande pardon. » Confession publique, les amis. Je suis désolé, mon épouse va la prendre ici devant tout le monde. Tout à l'heure, je m'en viens en voiture. Il y a une joggeuse qui passe. Tout va bien. Je passe la lumière, je la recroise, elle est en train de marcher. Là, j'ai eu un flash, j'ai dit, il me semble que je ne regardais pas sa tête tout à l'heure. J'ai été intéressé à une autre partie de son corps. J'avais même pas réalisé. Je suis désolé, chérie. J'avais même pas réalisé. Là, j'ai juste confessé, Seigneur, mais ça n'a pas de bon sens. As-tu le droit de faire du jogging? Nous apprenons à suivre Jésus-Christ le juste. Et donc, si j'ai renoncé à un ancien style de vie, c'est un combat au quotidien pour suivre Jésus-Christ le juste. Et ton combat, c'est peut-être que tu veux qu'on te fasse justice. Ton combat, c'est peut-être des attirances homosexuelles. Ton combat, c'est peut-être que tu es un menteur chronique. Ton combat, c'est peut-être que tu envies, tu n'es pas capable d'être heureux pour les gens autour de toi. Le contentement, tu es complètement étranger à ça. Ton combat à toi, c'est peut-être qu'il faut toujours que tu descendes du monde avec tes paroles. Ton combat à toi, c'est peut-être la pornographie. Et pour toi, la sexualité, c'est ce qui t'aide à t'endormir le soir. Je ne sais pas c'est quoi ton combat. Mais ce que Paul nous dit ici, c'est que si tu es en Jésus-Christ, tu as quitté le royaume où tu définissais la justice pour entrer dans un plus grand royaume. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. La parole de Dieu est troublante parce qu'on voudrait un évangile à la pièce. Un évangile qui concorde avec notre sens moral à nous. Ben déjà, un Dieu qui meurt sur la croix pour mes péchés, tu sais, je veux dire, je pense, si c'était juste ça le contrat, je pense que tout le monde accepterait. Jusque-là, ça va bien. Mais là, après, j'étudie la Bible, je vais vers les Écritures, la parole de Dieu devient un miroir qui m'expose, qui me confronte à moi-même, qui me montre qui je suis. Là, je découvre qu'attends un peu, là, ça c'était mon style de vie avant, mais là, je suis censé vivre autrement. Oui, parce que tu as quitté ton royaume, ta chambre d'écho, où tout le monde, tout ce que tu lis, tout ce que tu consommes, te dit, écoute, tu es vraiment quelqu'un de bien, c'est correct ça, continue à bitcher contre les collègues au travail. Je suis d'accord avec toi. Là, tu t'en vas vers la parole de Dieu te confronte, puis là, tu dis, attends un peu. Ah, mais c'est parce que j'appartiens maintenant à un nouveau royaume, au royaume de Dieu. Et là, ça se peut que ta boussole, là, elle fait comme, elle ne sait plus où se situer. Puis là, tu voudrais juste comme, hey, on va juste la tourner un petit peu par là. Regarde, je vais prendre ça, ça, puis ça. Le reste, regarde, tu t'en occuperas lorsque j'irai devant toi. Et là, le souci, et c'est ça qu'on découvre à travers tout Corinthien. D'accord? Un Corinthien, c'est ça. C'est du christianisme à la pièce. Et le problème avec ça, quand tu décides de prendre du christianisme à la pièce, moi, je veux régler ça dans ma vie parce que je trouve que Dieu est raisonnable, mais là, ici, il m'en demande trop, là. Fait que, regarde, on va réécrire ça. Il y a plein d'églises, hein. Si tu veux une église comme ça, j'en ai plein. Ils ferment toutes. Elles ferment toutes. C'est le libéralisme. Elles s'ajustent à l'atmosphère ambiante, les valeurs ambiantes, et elles ferment toutes les unes après les autres. Mais je peux t'en recommander une, si tu veux. Tu viendras me voir. Et si tu décides de faire ça du christianisme à la pièce, tu n'expérimenteras pas la joie de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Regardez bien comment le passage se termine. Il dit « Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. » Ce n'est pas simplement mon statut qui est changé. Ce n'est pas juste que Dieu m'a écrit une petite lettre puis il dit « Regarde, quand tu vas arriver au ciel, je sais que tu es imparfait, tu sortiras ça, c'est ton passeport pour le ciel. » Vous vous rappelez le passeport pour le ciel? On annonçait l'Évangile avec ça. Tu sortiras ton petit passeport pour le ciel. Jésus, il a mis son étampe dessus. Au nom de Jésus, j'ai été lavé, sanctifié, justifié. Ça ne s'arrête pas là. Et par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en moi. Vient me sceller. Et j'entre dans une vie nouvelle. Et ton appel est le mien, si tu connais Jésus-Christ comme moi, c'est à marcher par la foi en suivant Jésus-Christ le juste. Parce que je sais que je suis injuste. Et je décide de marcher dans ses voies. Et ça va être un combat perpétuel. Ça va être un combat énorme. Ça va être un combat très difficile. Je termine avec ce passage. Colossiens 3, qui fait écho à celui d'aujourd'hui. Mais c'est simplement pour que vous entendiez le fait que c'est un combat. Je ne suis pas en train de prétendre ici que personne n'a envie de vivre selon son ancien style de vie. Non, ça peut être un énorme combat. Et ça prend toute la compassion et tout l'amour de l'Église pour persévérer ensemble. Colossiens 3, versets 5 à 10, on lit « Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est de l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » C'est un combat qu'on a à livrer tous les jours. Et dans cette communauté ici à l'Espoir, ben, la première qualification, c'est de savoir que tu es un injuste, comme moi. C'est de comprendre que le seul juste, Jésus-Christ, est venu mourir sur la croix pour tes péchés. Et ensuite, c'est de te charger de ta croix. Ce n'est pas une planche de surf. Ça ne sera pas facile. Tu vas devoir faire mourir en toi-même des désirs, des pulsions, des passions pour recalibrer ton compas moral. Parce que tu entres maintenant dans un nouveau royaume. Un royaume qui est beau, qui est glorieux. Un royaume qui te demande de renoncer à ton ancien style de vie. Quel qu'il soit, quel qu'il soit. Et ma prière, c'est que ce matin, en quittant ici, vous ayez deux choses très claires dans votre esprit. Quel était ton ancien style de vie? Quelles étaient tes passions, tes impulsions que tu cherchais à assouvir quotidiennement? Et maintenant que tu es entré dans le royaume de Dieu, Viens t'appuyer sur la grâce de Christ pour dire, « Seigneur, avec ton aide, parce que le Saint-Esprit est en moi, je vais apprendre à marcher selon ta justice à toi. » Amen. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur, en étant conscient que tu nous brasses. Je vais dire comme ça, tu nous mets mal à l'aise, Seigneur. Tu nous confrontes à nous-mêmes, moi le premier, Seigneur. Dans toutes sortes de choses, des fois banales, mais d'autres fois lourdes de conséquences, tu me confrontes avec ta parole, Seigneur. Et Seigneur, par ta grâce, nous voulons être cette communauté de grâce où on peut ouvrir notre jeu. On peut aller vers un frère, une sœur, aller dans un groupe connexion, aller vers des gens plus matures qui peuvent nous aider et dire « Est-ce que je peux te parler de moi? » Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux prendre le risque de t'exposer où je suis? Parce que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide et j'ai besoin de compassion, j'ai besoin d'encouragement. Je suis découragé de moi-même parce que j'ai tellement de pulsions, de désirs de vivre selon mon ancien style de vie. Seigneur, que cette Église soit une communauté de grâce, Seigneur, et pas d'une grâce cheap. Non, on veut te suivre, Jésus. On veut vraiment te suivre. Et on veut le faire par la puissance de ton esprit, parce que ton esprit est glorieux. On veut le faire avec joie. On veut le faire avec foi. On veut se reposer en toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est merveilleuse. Merci pour ton amour, Jésus. Amen. Amen.